Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma. On ne compte plus les crises, notre monde est au plus mal. Déclaration du secrétaire général de l'ONU à la tribune de l'ONU ce mardi. Antonio Guterres, premier à prendre la parole, est revenu sur la crise alimentaire à laquelle le monde fait face en ce moment suite à la guerre en Ukraine. À Matadi, le gouvernement du Congo central vient de fixer le prix de la course en taxi, mais bon nombre des chauffeurs taxi et des motos boycottent ce tarif. Ils maintiennent ainsi leur mouvement de grève décrété depuis hier. Et puis, l'invité de ce soir, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, y parle notamment de la pérennité du processus de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir. Notre monde est au plus mal. Les clivages s'accentuent, les inégalités se creusent, les difficultés s'étendent. C'est en ces termes que le secrétaire général des Nations Unies a commencé son discours à la tribune de l'ONU. Antonio Guterres, qui était le premier à prendre la parole, est revenu sur la crise alimentaire à laquelle le monde fait face en ce moment à cause de la guerre en Ukraine. Il a aussi fait allusion à la multiplication des crises à travers le monde. Il a par ailleurs attiré l'attention des dirigeants du monde sur le réchauffement climatique. D'autres détails sur la locution du patron de l'ONU avec vous, Alain Rungmushinge, l'envoyé spécial de Radio Kapi à New York.
Hélas, on ne compte plus les crises. En Afghanistan, l'économie est en ruine. Plus de la moitié de la population est en proie à des niveaux de faim extrêmes, tandis que les droits humains, et en particulier les droits des femmes et des filles, sont bafoués. En République démocratique du Congo, les groupes armés de l'Est terrorisent les civils et attisent les tensions régionales. Dans la Corne de l'Afrique, une sécheresse sans précédent menace la vie et les moyens de subsistance de 22 millions de personnes, a souligné le secrétaire général de l'ONU et Antonio Guterres, de poursuivre que dans un monde qui se déchire, nous devons créer des mécanismes de dialogue pour apaiser les divisions. C'est pourquoi j'ai esquissé, dit-il, les éléments d'un nouvel agenda pour la paix dans mon rapport sur notre programme commun. Nous sommes résolus à tirer le meilleur de tous les outils diplomatiques de règlement pacifique des différends qui s'offrent à nous, comme le prévoit la Charte des Nations Unies. Négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage et règlement judiciaire. Notez que le premier président africain à s'exprimer était le Sénégalais Macky Sall, également président de l'Union africaine. Du siège de l'ONU à New York, Alain Rungmushinge, Radio Kapi.
Rappelons que le président Félix-Antoine Tshisekedi s'exprimera aussi ce mardi à la tribune des Nations Unies. Revenons au pays, à Minembwe, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi au sud Kivu. Un calme précaire est observé ce mardi après deux jours de combats entre les groupes armés Twirwane Ogumino et Mai Mai Biloze Bishambuke à Bigaragara et à Kakangara. Ces villages ont connu l'incursion du groupe Twirwane Ogumino avant la riposte des miliciens Mai Mai. Des sources locales parlent de 5 morts et 3 blessés dans ces affrontements à Kakangara. Fiston Goma nous en parle.
Les porte-parole de l'armée à Minembwe confirment que des crépitements d'armes lourdes et légères ont été entendus à Ilundu, Runundu et ses environs, provoquant la panique au sein des populations civiles à Minembwe centre. Les FARDC alertés ont dépêché une patrouille de combat vers la zone touchée. Ce dernier ne donne cependant aucun bilan de ces combats. D'autres sources locales, par contre, parlent de 5 miliciens Mai Mai Biloze Bishambuke tués et 3 combattants Twirwane blessés dimanche à Kakangara. Hier lundi, le groupe Biloze Bishambuke aurait tenté de repousser cette incursion jusqu'à la rivière Gaja, à la jonction des Kachacha et Kawela. D'après le président de la société civile à Minembwe, Saint-Kader Ouvuzangoma, jusque vers midi ce lundi, des affrontements entre ces groupes antagonistes étaient encore signalés dans les environs de Kawela, où des vaches ont été emportées. Des sources proches de Biloze Bishambuke signalent qu'une femme a été grièvement blessée à Nabibouye après l'incursion des Twirwaneo. Ce village hébergeait plus de 5000 déplacés internes qui avaient fui les affrontements de Bigaragara au mois d'août dernier. La zone de Bigaragara, convoité par tous les groupes armés locaux, régorgerait de minerais d'or exploités encore de manière artisanale. Duvira Fistongo Momayabala, Radio Kapi.
Nord Kivu, dans le territoire de Beni, un surpeuplement des élèves s'est fait remarquer dans les écoles mécanisées de la chefferie de Watalinga, précisément celle située à Kamango. L'organisation Action pour la défense des droits de l'homme, qui alerte sur cette situation, plaide auprès du gouvernement afin de mettre en place la mécanisation d'autres écoles et désengorger ainsi celles qui subissent déjà le surpeuplement. David Mouazé, coordonnateur de cette ONG, explique la situation au téléphone de Marc Marofimbo.
Il y a un problème des effectifs qui ont gonflé dans les écoles mécanisées et payées suite à la gratuité des enseignements primaires. C'est pour cette raison que nous sommes en train aussi d'interpeller la conscience aussi de notre gouvernement en fait que toutes les écoles, même celles-là qui ne sont pas mécanisées, qu'elles soient mécanisées en fait de désengorger ces écoles ici payées mécanisées. Donc vous trouverez dans une classe, il y a beaucoup d'enfants et aussi avec ces conditions-là, l'enseignement pourra toujours bâclé. Vraiment, c'est une observation que nous avons enregistrée dans certaines classes des écoles mécanisées payées suite à la gratuité de l'enseignement primaire. Donc, c'est vraiment une alerte pour même les intervenants en éducation, en fait, de voir comment répondre aux préoccupations, surtout aux besoins qui sont aujourd'hui visibles dans le secteur de l'éducation.
Province de Lomami, des dizaines d'élèves de la localité de Chimangala, dans la chefferie de Kachisungu, territoire de Lulu, ne vont plus à l'école depuis la semaine dernière. Les parents ont fui la présence des policiers déployés pour rétablir l'ordre dans un vieux conflit foncier qui oppose deux familles. Suite à cela, le chef de localité avait été retrouvé mort dans son champ la semaine dernière. Le ministre provincial de l'Intérieur de Lomami demande aux habitants de regagner le village afin de vaquer librement à leurs travaux champêtres en ce début de la saison culturelle. A des explications avec Esther Dalafina.
C'est depuis la semaine dernière que des dizaines de familles de la localité de Chimangala ont fui leur village pour se réfugier en brousse. Ce déplacement ne permet pas aux élèves de poursuivre les enseignements. Les autorités scolaires déplorent la suspension des cours dans cette localité. De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur lie cette situation au décès du chef de localité dans les conditions non encore élucidées. Le défunt avait été trouvé mort dans son champ. Pendant ses obsèques, un jeune de la partie adverse a été soupçonné d'être auteur de ce drame. Il a par la suite été malmené jusqu'à être brûlé vif pour venger la mort du chef de localité. La police a été déployée sur place pour rétablir l'ordre. Les deux familles en conflit ainsi que les habitants de cette localité de Chimangala ont jugé bon de prendre le large abandonnant les deux corps. Le ministre provincial de l'Intérieur demande aux habitants de regagner le village pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école et aux habitants de poursuivre les travaux champêtres pendant cette période de la saison culturelle. Un calme apparent règne actuellement dans la localité, mais l'affaire reste pendante. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
À Bandon-Louville, nous apprenons le décès hier d'un enfant parmi les déplacés du territoire de Kwamout dans le Maïndombe, des déplacés qui ont fui les hostilités dues au conflit entre les Teke et les Yaka. Leur nombre n'est fait qu'augmenter au Kwilu. Il est passé de plus de 4000 à plus de 11000 en une semaine, d'après le directeur de cabinet du commissaire général des actions humanitaires du Kwilu. Selon lui, leurs conditions de vie sont très précaires et le besoin d'assistance s'est fait de plus en plus sentir. Il demande l'intervention des partenaires humanitaires et de toute personne de bonne volonté pour venir en aide à ces personnes. Le point avec Irène Boma.
Au total, 11 901 déplacés de Kwamout sont accueillis dans la province du Kwilu, dans 2949 dans la ville de Bandundu et 8954 dans le territoire de Bagata, précisément dans les secteurs de Wamba et de Kwango Kasai. Le directeur de cabinet du commissaire général des actions humanitaires du Kwilu qui livre l'information indique que ces déplacés vivent dans des conditions inhumaines malgré des efforts déjà ménagés par le gouvernement provincial pour les assister à vivre et non vivre. Déjà un enfant d'au moins 5 ans parmi ces déplacés est mort lundi des suites de ces mauvaises conditions de vie. Jérémy Bikiel déplore cela et lance un SOS en leur faveur.
Ils se retrouvent, ils sont entassés, il y a la proximité, la situation est aggravante. Les situations alimentaires et hygiéniques ne sont pas suffisamment appropriées. Il y a des enfants qui ont des problèmes de palud, il y a aussi certains qui ont déjà des problèmes de malnutrition. Vous voyez, il n'y a pas d'équilibre alimentaire. Il y a aussi des personnes malades. Aujourd'hui même, nous venons d'enregistrer un cas de mort, il y a un enfant qui est mort. c'est ainsi que nous nous lançons encore cet appel auprès des partenaires qui voudront bien appuyer les déplacés.
Jérémy Bikel signale également que parmi ces déplacés, il y a aussi plusieurs femmes enceintes qui ont besoin de la prise en charge médicale adéquate. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le prix de la course en taxi vient de passer de 500 francs à 600 francs congolais. C'est le tarif approuvé par le gouverneur de province. Il a été fixé hier dans la soirée à l'issue de la réunion de crise ayant mis autour d'une même table les ministres provinciaux des transports et du plan et les associations qui exercent dans le secteur des transports, dont la SECO, à la suite de la grève décrétée hier par les conducteurs des taxis et taxi-moto, mais bon nombre des chauffeurs taxis et motocyclistes boycottent ce tarif. Reportage de Nana Plus Riche Mambou rendu par Innocent Fadili.
La revendication des chauffeurs taxis et motocyclistes de Matadi démajorer le prix de course à 1000 francs suite à l'ajout des 290 francs congolais sur le prix d'un litre de l'essence et ou de transporter 5 passagers au lieu des 4 comme il est de coutume à Matadi n'a pas été acceptée par le gouverneur du Congo central. Lors de la réunion qui a regroupé lundi le ministre provincial de transport, le cabinet du gouverneur et les associations des chauffeurs taxis et taxi-moto pour désamorcer cette crise, l'option a été prise d'augmenter le prix de la course à 600 francs, soit l'ajout des 100 francs congolais. Pour le directeur de cabinet du ministre des Transports, ces conducteurs doivent se conformer à ce nouveau tarif sous peine des sanctions. Venant Wabello.
La SECO et toutes les associations qui sont dans le domaine du transport ont voulu qu'on puisse élever le montant à 1000 francs au coût du transport urbain. On s'est arrêté à 600 francs. Donc, au niveau de la ville de Matadi, la course urbaine revient dorénavant à partir d'aujourd'hui à 600 francs.
Certains conducteurs des taxis et taxis-moto résiste à cette décision. Mardi, dans la ville de Matadi, ceux qui rejoignent tôt leur lieu de service ainsi que les élèves de l'avant-midi ont affirmé avoir eu des difficultés pour trouver un taxi. Et d'après eux, certains des taxis et taxis-motos qui circulent exigent aux passagers de payer 1000 francs avant même qu'ils prennent place à bord.
Par ailleurs, au Maniema, il s'observe à nouveau une hausse vertigineuse des prix de carburant depuis ce matin dans la ville de Kindu. Un litre qui se vendait à 4500 francs s'est négocié actuellement à au moins 10 000 francs congolais. Déjà, le transport en commun est devenu compliqué. Les motards haussent le ton. Le président des pétroliers parle d'une rupture des stocks dans toute la ville. La population, elle, demande l'implication rapide des autorités. Florence Kiza.
Les rumeurs de cette hausse ont commencé les après-midi d'hier lundi. Arrivé le soir, le litre s'est négocié entre 6 000 et 7 000 francs. Et ce matin, presque toutes les stations ont fermé. L'unique station Sonaïdro qui sert les carburants à 5 500 francs, mais il n'est pas facile d'en trouver. Les motards haussent les tons.
On n'arrive pas à comprendre vraiment. Hier, on a acheté un litre à 4 800 francs à la pompe. Mais aujourd'hui, un litre de carburant coûte 10 500. Ça nous étonne beaucoup. Maintenant, une course, nous allons transporter une personne pour combien? Nous voulons que les carburants soit dans un prix rabaissé.
Ils demandent 1000 à 1500 francs par course, mais les passagers n'acceptent pas.
Nous sommes en train de gaspiller notre argent. Nous voulons demander les courses pour 1000 francs, soit 1500 francs. Mais nos clients ne veulent pas ce qu'ils nous donnent cet argent-là. Ils veulent toujours 500 francs congolais.
Situation économique est difficile pour ces derniers qui préconisent garder leur engin à la maison.
Les clients ne veulent pas monter au prix de 1000 francs. Nous voulons juste garder mon toit à la maison.
Après leur rencontre avec le gouverneur intérimaire, les pétroliers espère à l'implication de l'autorité. Babou Nazareth.
Nous n'avons pas de stock. Moi, c'est depuis hier que toutes mes stations ont fermé. Chez les autres collègues aussi n'ont pas de carburant. Nous avons été invités hier et il y a des pistes et solutions que nous avons proposées aux autorités.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Restons sur les routes, cette fois en Ituri. Les tronçons Komanda Nyanya sur la route nationale numéro 4 et Bunia Mongwalu ainsi que Ngote Aru sur la nationale numéro 27 sont dans un état de délabrement très avancé. Plusieurs véhicules sont bloqués sur ces axes routiers en cette période de pluie. Les transporteurs et les chauffeurs ainsi que les passagers disent être exposés aux attaques des groupes armés qui sont en errance dans la région. Ils demandent au gouvernement de réhabiliter d'urgence ces axes routiers pour préserver des vies humaines. Isaac Remoyope.
Plusieurs bourbiers parsèment ces axes routiers, indiquent les chauffeurs des camions et des voitures de transport en commun. Dans les territoires de Djougou, les miliciens de la Codeco sont actifs. Les tronçons Bakonde Mongwalu long de 20 km est quasi impraticable. Les travaux qui étaient en cours sont suspendus, affirment des sources locales. Même situation sur l'axe Ngote Aru, qui est abandonné par le gouvernement, déclare des usagers. Ces derniers redoutent les attaques de la Codeco qui sont visibles vers Katanga et Dialasiga, à cheval entre les territoires de Djougou et Mahagi. Dans dans les territoires de Mambasa où les ADEF ont intensifié les attaques depuis un mois. Des gros trous parfois remplis d'eau jonchent plusieurs kilomètres des routes de Komanda à Nyanya. Plusieurs véhicules sont déjà incendiés sur ces tronçons, déclarent certains conducteurs qui expriment leur inquiétude.
Une route qu'on devrait fréquenter pendant 3 heures, on fait 2 à 3 jours. Et pourtant, on paye les taxes. Cela contribue à accentuer l'insécurité. Si la route était à bon état, l'ennemi serait dans les possibilités d'atteindre les véhicules.
Selon certains chauffeurs, le gouverneur de province, lors de sa tournée il y a quelques mois, notamment à Nyanya, a promis de réhabiliter ses tronçons routiers. Mais rien n'est fait jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas encore la réaction du porte-parole du gouvernement provincial. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO est prévu le jeudi 22 septembre. C'est à l'occasion de la 77e Assemblée générale des Nations unies ouverte hier à New York. La question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet est à l'ordre du jour. Les services de renseignement du Venezuela commettent des crimes contre l'humanité en réprimant l'opposition sur ordre du sommet du régime. Ceci est contenu dans un rapport compilé ce mardi par des experts de l'ONU.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Il rassure notamment la population sur la pérennité du processus de la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Jean-Pierre Liaou s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui expliquerait l'accélération par vous de la mise en retraite des 10 000 agents et fonctionnaires de l'État cette année, dont la première vague ce mois de septembre et la deuxième interviendra au mois prochain?
C'est d'abord le souci de rendre leur dignité à tous ces fonctionnaires qui aujourd'hui ploient sous le poids de l'âge. Les droits au repos après une longue carrière est consacré par notre constitution. C'est pas un privilège. Après une longue carrière, on mérite, tout fonctionnaire mérite une retraite qui soit une retraite digne. Il faut, je l'ai dit plusieurs fois, arrêter avec cette absence de retraite et cesser d'être l'unique pays au monde où seule la tombe peut arracher un fonctionnaire de son office. Donc l'idée, c'est d'abord d'accorder ces repos. Ensuite, il faut rajeunir l'administration publique parce que nous allons procéder à un remplacement progressif. Dans un premier temps, un fonctionnaire sur deux qui va à la retraite afin de nous laisser la marge de mieux gérer la masse salariale.
Alors, Excellence, qu'est-ce qui garantira l'irréversibilité de ces processus de la mise à la retraite?
Je crois que c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est déterminé. Il veut absolument que nous puissions redresser l'administration publique. Or là, on ne peut pas redresser une administration publique avec un personnel totalement vieilli. Donc, je crois que nous avons d'abord cet atout, cette volonté politique qui est sur la table et la détermination de son Excellence Monsieur le Premier ministre à matérialiser cette volonté présidentielle. Et moi, je suis totalement dévoué à cette cause. Je suis, si vous voulez, accompagné dans ce combat par le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances. Nous sommes donc porteurs d'une ambition qui est réelle et d'une détermination sans faille. Pour moi, c'est la seule clé qui garantira, en tout cas, c'est le succès de cette opération et la pérennité de cette opération publique qui passe par cette mise à la retraite de plus ou moins 350 000 agents qui en sont éligibles.
Vous organisez déjà une cérémonie pour des retraités, des secrétaires généraux émérites.
Oui, dans le jour à venir, Son Excellence Monsieur le Président de la République procédera à la décoration de ceux des secrétaires généraux qui ont été envoyés à la retraite. Et ensuite, je crois, seront aussi associés à cette cérémonie un échantillon de certains fonctionnaires centenaires ayant dépassé l'âge de 100 ans. Mais nous prévoyons d'autres cérémonies et d'autres moyens pour honorer ceux des fonctionnaires qui ont été retraités de manière tout à fait tardive. Et nous agissons pour que plus jamais dans notre pays une telle chose puisse se passer, c'est-à-dire que laisser un fonctionnaire atteindre un âge aussi avancé sans qu'il ne puisse avoir la possibilité d'être
facilement. Que certains secrétaires généraux l'ont accepté facilement.
C'est la loi. La loi, c'est la loi. C'est pas question d'accepter ou de pas accepter. Il y en a qui attendaient depuis longtemps. Il y en a, je crois, qui ne pensaient pas que le chose allait si vite, allait partir aussi rapidement. Mais bon, je crois que les faits sont là, la volonté est là, celle de fluidifier la retraite dans notre pays, et je crois que le secrétaire général, comme d'autres fonctionnaires, n'ont pas de choix que de s'adapter.
Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé cette interview.
Écoutez, c'est moi. Merci bien.
Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, répondait aux questions de J.R. Lungembo. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, mis en onde d'Alain Goy. Merci de nous avoir suivis.